Chapitre 1er. Le miroir de Dieu. Et que le vrai Dieu de paix vous sanctifie entièrement. Et je prie Dieu que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. En Thessaloniciens 5, verset 23. Même si la parole de Dieu enseigne clairement que nous sommes formés de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, très peu de chrétiens mettent en pratique cet enseignement et voient des résultats dans leur vie de tous les jours. En fait, la plupart croient qu'ils ne sont constitués que d'un corps et d'une âme. Ils confondent l'âme et l'esprit, pensant qu'il s'agit de la même chose. Alors, dans leur vie quotidienne, ils ne tiennent compte que de la partie physique et de la partie émotionnelle, mentale et intérieure, couramment appelée personnalité de leur être. Même la concordance Strong ne fait pas la distinction entre le corps, l'âme et l'esprit. Le mot grec « pneuma » y est défini par le terme « âme immortelle », alors qu'il désigne en fait l'esprit. Mon but n'est pas de critiquer le travail de qui que ce soit, mais mon étude de la parole de Dieu a révélé qu'il existe une différence très nette entre l'esprit et l'âme. Je ne suis donc pas d'accord avec cette définition du mot « pneuma ». C'est bien votre esprit qui est la partie la plus intime de votre être, et non votre âme immortelle. Ce que le mot « corps » désigne est évident. C'est la partie physique de vous-même qui peut se refléter dans un miroir. Si vous étiez en train de me parler de vive voix, vous verriez mon corps. Cependant, vous seriez aussi en train de parler à la partie émotionnelle et mentale de mon être, c'est-à-dire à mon âme. Certains définissent l'âme comme étant le siège de la pensée, de la volonté et des émotions. Cette définition est correcte, mais cependant incomplète, car il faut ajouter la conscience. L'âme est donc ce qu'on appelle couramment la personnalité. Il est possible de sentir son corps et son âme. Par exemple, si je pose mes mains sur votre épaule, vous saurez que je vous ai physiquement touché. Je peux aussi vous toucher d'une autre manière, sans qu'il y ait nécessairement de contact physique. Par mes paroles, je peux en effet susciter chez vous la joie, la tristesse ou la colère, et ainsi toucher votre âme. Je pourrais même vous blesser par mes paroles, sans vous toucher physiquement. Il vous est facile de savoir ce que vous ressentez dans votre corps et dans votre âme, parce que vous êtes constamment en contact avec ces parties-là. Ainsi, un simple inventaire mental vous suffit pour être renseigné sur l'état de votre corps et savoir si votre adrénaline est en train de monter ou si vous êtes fatigué. Si vous êtes en bonne santé ou si vous êtes en train de combattre un rhume, si vous avez mal à la tête ou si l'eau de la douche est juste à bonne température. En fait, vous n'avez même pas à réfléchir à tout cela parce que votre corps vous apporte constamment toutes ces informations. De même, il vous est aussi possible de vérifier l'état de votre âme et de savoir instantanément comment vous allez intérieurement. Il vous est facile de dire si vous vous sentez heureux ou blessé, mentalement épuisé ou bien en forme et prêt à démarrer la journée. Ou si vous êtes tout simplement en colère. Vous savez quand il y a de la crainte ou de la dépression en vous, parce que vous êtes toujours en contact avec votre âme. Par contre, vous ne pouvez pas avoir accès à votre esprit de manière naturelle. Jésus a déclaré « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3, verset 6. Il voulait dire qu'il n'y a pas de lien direct entre les deux. Ils sont interdépendants, comme vous le verrez plus tard. Mais l'esprit est esprit et la chair est chair. Vous ne pouvez tout simplement pas contacter votre esprit au travers de vos émotions ou de votre corps physique. C'est là que se trouve un des plus gros problèmes de la vie chrétienne. En effet, les réalités spirituelles ne sont pas de l'ordre du ressenti. Si vous ne comprenez pas cela, il n'est pas étonnant que vous vous posiez des questions quand la parole de Dieu déclare que vous avez la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Éphésiens 1, versets 18 à 20. Si vous croyez que la vérité peut être discernée au travers des sens naturels et que, comme la Bible le dit, vous êtes une nouvelle créature qui peut faire les mêmes œuvres miraculeuses que Jésus. 2 Corinthiens 5, verset 17 et Jean 14, verset 12. Cela a de quoi vous rendre perplexe. En effet, si vous ne comprenez pas la différence entre l'esprit, l'âme et le corps, vous essayerez de trouver cette puissance dans votre corps et dans votre âme, et ne voyant vraiment rien de ce genre en vous, vous vous direz que la Bible est bien difficile à comprendre. Vouloir à tout prix voir, goûter, entendre, sentir ou toucher ce que la parole révèle à votre sujet nous met tout de suite en conflit avec elle. En constatant la disparité existant entre votre expérience et ce que la parole dit, vous lèverez les mains de désespoir et de frustration et vous conclurez « Cela ne doit pas être vrai ». Une bonne compréhension de ce que sont l'esprit, l'âme et le corps vous permettra de déverrouiller le royaume spirituel et de faire l'expérience de la personne que vous êtes et de ce que vous avez en Christ. Les réalités du royaume spirituel ne peuvent pas être vues ou ressenties de manière naturelle. La seule façon de percevoir la vérité spirituelle de manière précise, c'est au travers de la Bible. Prenez tout simplement la parole de Dieu et croyez-la. Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis, elles, sont esprit et elles sont vie. Jean 6, verset 63. La parole de Dieu révèle la réalité spirituelle. Si vous voulez savoir à quoi ressemble votre esprit, vous devez le découvrir dans la parole. Vous ne pouvez pas vous fier aux émotions ou à d'autres types de perceptions. La parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque vous étudiez la Bible, vous voyez en fait la personnalité que vous êtes dans l'esprit. Car si quelqu'un est en auditeur de la parole et non en faiseur, il est semblable à un homme considérant son visage naturel dans un miroir. Car après s'être considéré lui-même, il s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui continue en elle, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, cet homme sera heureux dans son action. Jacques 1, versets 23 à 25. La parole de Dieu est un miroir spirituel. Lorsque vous regardez votre visage dans le miroir, ce n'est pas réellement vous que vous voyez, c'est plutôt une représentation. En fait, vous n'avez jamais réellement fixé les yeux sur votre propre visage. Réfléchissez à cela. Vous en avez toujours vu une représentation. Cependant, même si ce n'est qu'une représentation, vous avez appris à lui faire confiance. Vous ne vous fiez pas à ce que vous ressentez pour savoir si vous êtes bien coiffé ou maquillé. Ces choses-là ne peuvent pas être ressenties. Vous devez vous regarder dans un miroir et ensuite faire confiance à ce que vous voyez. C'est la même chose avec votre esprit né de nouveau. En effet, la parole de Dieu réfléchit parfaitement la personne que vous êtes dans l'esprit. C'est la seule façon de la connaître. Vous ne pouvez pas simplement supposer « si j'avais la puissance de Dieu à l'intérieur de moi, j'en serais conscient ». Parce que ce qui est de l'esprit est esprit et ce qui est de la chair est chair. Ce serait comme d'essayer de ressentir si vous étiez maquillé ou si vous étiez bien coiffé. Ces choses-là ne peuvent pas être ressenties. Vous devez regarder dans le miroir de Dieu et croire la réalité spirituelle que vous y voyez. Tout croyant né de nouveau est passé par une transformation intérieure complète. C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés à lui par Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Remarquez bien qu'il n'est pas écrit que toutes choses sont en train de devenir nouvelles ou bien qu'elles ont le potentiel d'être nouvelles. Ce verset déclare que les choses anciennes sont passées, c'est en temps passé, que toutes choses sont devenues. C'est fait, c'est une réalité maintenant, nouvelle, et que toutes choses viennent de Dieu. Lire ce genre de verset sans une bonne compréhension de ce que sont l'esprit, l'âme et le corps mène à la confusion, à la frustration et finalement à l'incrédulité. Imaginez que vous ayez des kilos en trop avant de vous convertir. Si après avoir lu qu'il y a un changement total et que toutes choses viennent de Dieu, vous observez votre corps et constatez que les kilos sont toujours là, vous allez tout de suite vous demander pourquoi la transformation ne s'est pas produite et pourquoi vous n'êtes pas totalement changé. Or, si vous aviez des kilos en trop avant votre conversion, ils seront toujours là juste après. Un temps viendra où vous recevrez encore glorifié, mais cela ne s'est pas encore produit, car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. En Corinthiens 15, verset 53. Bien que l'expiation de Christ ait pourvu pour vous dans le domaine physique, votre corps n'a pas encore été sauvé. Il a été racheté, mais il n'a pas encore reçu sa rédemption totale. Enfant, je collectionnais les timbres d'une coopérative. Lorsque ma mère achetait des marchandises à l'épicerie, elle gagnait des timbres en proportion du montant de son achat. Elle me les donnait pour que je puisse les classer et les coller dans un cahier. Une fois ce cahier rempli, elle m'amenait au magasin de rédemption, de remboursement de ces timbres pour remettre mon cahier en échange de tout ce que je désirais de valeur équivalente dans le magasin. Bien que les timbres aient été achetés, ils n'étaient pas échangés ou rédimés ou remboursés tant que je ne les avais pas rapportés. Ce que je désirais, ce n'était pas tant les timbres, mais ce que je pouvais obtenir en les échangeant. De la même façon, Jésus a acheté votre corps glorifié au moyen de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Bien que le coût total ait été payé, vous êtes toujours dans un corps corruptible en attendant de recevoir votre corps éternel. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore la rédemption de la possession qui a été acquise. Éphésiens 1, verset 14. Votre âme non plus n'a pas été sauvée. Cela semblera bizarre aux chrétiens qui, pour se décrire comme évangélistes, se présentent comme des gagneurs d'âmes, ou, lors d'une évangélisation, viennent pour voir des âmes sauvées. En réalité, le Nouveau Testament ne mentionne le salut de l'âme que de rares fois. Et aucun de ces exemples dans le contexte ne parle de l'expérience de la nouvelle naissance. Hébreux 10, verset 39, Jacques 1, verset 21, Jacques 5, verset 20, 1 Pierre 1, verset 9. Lorsqu'un chrétien émotionnellement découragé et vaincu mentalement commence à croire la parole de Dieu et expérimente de nouveau la victoire, la paix et la joie, il s'agit là du salut de son âme. Par contre, lorsque vous naissez de nouveau, l'âme n'est pas la partie de vous qui change complètement. Si vous manquiez de bon sens avant d'être sauvé, vous en manquerez toujours après avoir été sauvé. Si vous ne connaissiez pas les maths avant de naître de nouveau, vous ne connaîtrez pas non plus les maths instantanément après être né de nouveau. En fait, si vous étiez déprimé avant d'être sauvé, vous resterez déprimé jusqu'à ce que vous changiez la manière de penser de votre âme en croyant la parole de Dieu. À présent, votre âme peut être transformée dans la mesure où vous renouvelez votre pensée, changez vos attitudes et rendez vos valeurs conformes à la parole de Dieu. Cela devrait se produire, car elle est entrée dans un processus de changement. Mais cela n'arrive pas automatiquement. Dans votre âme, les choses anciennes ne sont pas totalement passées et toutes les choses ne sont pas encore devenues nouvelles. Sa transformation ne sera achevée que lorsque vous partirez pour être avec Jésus. Lorsque vous recevrez votre corps glorifié, vous recevrez aussi votre âme glorifiée. En Corinthiens 13, versets 9 à 12, nous révèle que, quand ce qui est parfait sera venu, la connaissance que vous avez aujourd'hui et qui est partielle cédera la place à une pleine révélation. Vous ne connaîtrez plus les choses en partie, mais vous connaîtrez toutes choses comme aussi vous êtes connus. Ce qui vient dans le futur, c'est l'accomplissement de cette transformation et de ce changement complet dans votre corps et dans votre âme. Mais 2 Corinthiens 5, 17 établit clairement que toute personne qui est en Christ est maintenant même une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette totale transformation n'est pas seulement quelque chose en cours, cela décrit aussi un changement qui a déjà été opéré, c'est en fait accompli. Mais où s'est donc opéré ce changement complet? Selon le miroir de Dieu, ce n'est ni dans votre corps, ni dans votre âme, mais dans votre esprit, né de nouveau.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.